très heureux d'être dans la belle ville de Toulouse. Je suis venu par amitié pour Marie-Joseph pour vous parler d'un sujet qui, a priori, paraît très normatif et que je vais essayer de rendre un peu plus vivant pour en faire percevoir à la fois la nature et les enjeux. Vous voyez sur l'introduction, j'étais notamment secrétaire général de l'ISO, qui est l'Organisation internationale de normalisation, pendant 7 ans à Genève. Et pendant cette période intense de ma vie professionnelle, il y en a eu d'autres, mais j'ai parcouru le monde de long en large, visitant plus de 120 pays, faisant plusieurs fois la distance de la Terre à la Lune en avion. Et j'ai pu mesurer, si j'ose dire en l'occurrence, l'importance des normes et de la normalisation dans notre village global. Alors, d'abord, je vais préciser de quelles normes on parle, parce que quand on emploie ce mot, on a plus à la tête des contraintes, des obligations, qu'un outil de transfert de technologie, de facilitation de l'innovation et des échanges ou de transmission des bonnes pratiques. Je dirais un mot de la relation entre normes et métrologie, pour faire le lien avec une conférence qui a été donnée ici par Marie-Ange même, je crois, Cotré, sur la métrologie. Et puis je rentrerai dans le vif du sujet pour vous parler du cadre général dans lequel les normes s'élaborent au XXIe siècle. Je décrirai un peu plus le système ISO, qui est le principal producteur de normes à la base de consensus, et je décrirai la contribution des normes à diverses facettes du développement durable, et je terminerai sur une norme récente de l'ISO, qui a fait beaucoup parler d'elle, sur la responsabilité sociétale, ce qui nous montrera l'ampleur du champ de la normalisation depuis les palvis et les boulons qui étaient les normes d'origine au plan international jusqu'à la responsabilité sociétale. Alors d'abord, de quelles normes parlons-nous? Si on se reporte au Larousse, on a des définitions, on voit tout de suite le mot « règle » ou « ensemble de règles », on voit dans l'industrie c'est des règles, donc le mot clé c'est les règles. Si on regarde Wikipédia, c'est assez intéressant parce qu'on voit que la norme, c'est issu du latin norma equer, qui désigne un état habituellement répandu au moyen, considéré le plus souvent comme une règle à suivre. Sur Internet, un site qui s'appelle psychologie.com, qui dit « norme, standardisation arbitraire des comportements, sexuels notamment, propres à chaque société, s'appuyant sur des codes sociaux, ethniques, législatifs, moraux et, trois petits points, sujets à évolution ». Et puis, il y a une autre utilisation du mot norme que j'ai trouvé dans le programme d'un des deux candidats à l'élection présidentielle qui s'est qualifié pour le deuxième tour et qui dit, dans une de ses actions, « Pour faciliter la vie des PME, chaque fois qu'on publiera une norme, on en supprimera deux ». Clairement, ce candidat ne parlait pas des mêmes normes que celles dont je vais vous parler moi et qui sont des documents qui en fait sont élaborés sur la base d'un consensus entre les parties prenantes et qui se traduisent par des documents dans lesquels est en quelque sorte cristallisé le savoir-faire, cristallisé des bonnes pratiques, cristallisé des règles librement consenties qui facilitent le transfert d'innovation et la bonne marche de l'économie. Et c'est de ces normes-là dont je vais vous parler. Donc les normes sont des documents qui traite de sujets très divers, ça peut être des définitions. Le pas quotidien des normalisateurs, c'est définir des termes, faire de la terminologie, mais ça peut aussi concerner l'interopérabilité. On a tous des exemples de normes d'interopérabilité qui marchent, et puis on en a quelques-uns aussi de normes qui ne marchent pas, comme les prises électriques, qui sont encore loin d'être complètement normalisées dans le monde. Ce qu'on peut appeler les métriques, c'est-à-dire les indicateurs, les méthodes de mesure, les méthodes d'essai qui doivent être codifiées pour, s'agissant des méthodes d'essai, permettre à la fois la reproductibilité et la représentativité des mesures. Ça peut être des normes de performance qui fixent des seuils de performance. Ça peut être des règles, des guides de conception, de qualification des matériaux. Ça peut être aussi des documents qui fixent comment on réalise des essais, comment on attribue des certificats. C'est ce qu'on appelle l'évaluation de la conformité. Et puis enfin, plus récemment, on a vu prospérer des normes de management qui contiennent les bonnes pratiques en matière d'organisation, comme la série fameuse des normes ISO 9000 qui a fait les petits depuis la première publication en 1987. Donc la normalisation, c'est, les normes sont un petit peu le software de la qualité, et on pourrait dire que la métrologie, c'est-à-dire la science des mesures et tout ce qui va avec, c'est le hardware, et c'est ce qui permet de relier une mesure faite sur le terrain à des étalons ou à des références fondamentales qui assurent le niveau d'incertitude souhaité pour des mesures de terrain. Je vais passer très rapidement sur la métrologie parce que simplement rappeler le lien entre les deux. Donc il y a une hiérarchie des mesures, comme il y a une hiérarchie des normes, on verra tout à l'heure, avec un niveau scientifique, vous allez recevoir prochainement un prix Nobel. C'est intéressant de savoir que dans les prix Nobel qui ont été attribués en physique depuis le début du siècle, il y a au moins 8 métrologues qui ont obtenu le prix Nobel. Pour citer un récent comme l'effet Josephson, par exemple, qui a obtenu un prix Nobel. Donc, la métrologie est à la frontière de la science, et on verra aussi que la définition des étalons est à la limite de ce qu'on peut faire avec la physique actuelle. Il y a une métrologie industrielle, c'est celle qu'on pratique dans les usines, c'est les cales étalons pour vérifier les dimensions de pièces fabriquées. Puis il y a la métrologie légale, qui est celle qui permet de mesurer dans un contexte réglementaire, qu'il s'agisse de la teneur en alcool de la laine des automobilistes, ou qu'il s'agisse des traditionnels poids et mesures auxquels on est confronté chaque jour. Il y a une hiérarchie nationale, européenne, internationale, je n'y insiste pas trop. La métrologie, comme Ariane, j'ai dû certainement vous le dire, est actuellement en pleine effervescence parce que on est en train de s'affranchir pour toutes les grandeurs des étalons matériels. La dernière unité qui est définie avec un étalon matériel, c'est le kilogramme en platine iridiée et non pas irradiée, comme on disait en seconde, d'ailleurs une mauvaise note. Hein. Donc c'est platine iridiée. Et on est en train, en définissant des constantes fondamentales, on l'a fait pour le temps, en fixant la vitesse de la lumière, et le temps est devenu la référence qu'on en connaît le mieux, puisque la seconde aujourd'hui est définie à 10 puissance moins 15. Donc je n'insiste pas là-dessus, mais sachez que la métrologie est en effervescence pour redéfinir le volt, l'ampère, le kilogramme, à base de constantes fondamentales. En ce qui concerne la normalisation, eh bien, elle prend ses racines très loin dans le temps. Elle a été notamment dans le domaine de la construction et dans l'art militaire, sans normes, il n'y aurait pas eu de pyramides et il n'y aurait pas eu de canons. Hein. Alors, on ne peut pas dire qu'en ce qui concerne le canon, c'est un titre de gloire, mais la normalisation s'est imposée progressivement comme un outil du développement industriel. L'évolution industrielle au XIXe siècle, au début du XXe siècle, on a vu la création d'instituts nationaux de normalisation, et de métrologie d'ailleurs, le National Bureau of Standards aux États-Unis, qui est devenu le National Institute for Standards and Technology, le NIST, a été créé en 1901. La BSI, le British Standards Institute, a été créé en 1901 également. Le Laboratoire National d'Essai, qui existait depuis 1875, a été érigé en établissement individualisé au sein du CNAM en 1901. Donc le début du XXe siècle a été une période où on a vraiment cristalliser à la fois la métrologie et la normalisation dans une organisation nationale et avec un réseau international, et puis progressivement, avec la globalisation de beaucoup de choses, le sujet est devenu d'abord européen, avec la construction de l'Union européenne, puis international, et il y a dans le cadre des accords de l'Organisation mondiale du commerce, un accord spécifique sur les obstacles techniques qui parlent de normalisation et de normes dans leur impact sur les échanges. Il y a dans le domaine de la normalisation, comme dans le domaine de la métrologie, une hiérarchie avec des instituts nationaux comme la FNOR en France, les bureaux de normalisation, des organisations européennes, le CEN, CENELEC et l'ETSI, qui sont respectivement le SEN dans un champ assez généraliste, le SENELEC dans le domaine électrique et l'ETSI dans le domaine des télécommunications, et puis au plan international, les trois organisations leaders à Genève, qui sont, que sont la CEI, la Commission électrotechnique internationale, créée en 1905, l'ISO, qui a été créée en 1947, et l'UIT, qui curieusement, l'Union internationale des télécommunications, est la plus ancienne, puisqu'elle est héritière de l'Union internationale des télégraphes, qui avait été créée en 1875. Donc, ces organisations, on en reparlera tout à l'heure, sont le sommet, en quelque sorte, de la hiérarchie des normes dont nous parlons, c'est-à-dire des normes basées sur un consensus. Alors, il faut dire un mot au passage des États-Unis, parce que les États-Unis se distinguent un peu du reste du monde, parce que eux, ils ont des grands instituts de normalisation sectorielle, et il a fallu d'ailleurs progressivement les faire contribuer activement à l'élaboration de normes internationales, puisque la tendance des Américains, c'est de dire bah, nos normes, on les impose, vous êtes, pour la plupart d'entre vous, des scientifiques, vous avez entendu parler de la STM dans le domaine des matériaux, et ces instituts américains sont progressivement venus à contribuer activement à la normalisation internationale, si bien que les États-Unis sont aujourd'hui, comme on le verra tout à l'heure, à la fois le premier contributeur, à la fois financier et technique dans les organisations internationales de normalisation. Alors, à côté des normes basées sur le consensus, il y a ce qu'on peut appeler les standards, pour essayer de distinguer. Les Anglais, les anglophones n'ont pas cette faculté de distinguer normes et standards, puisqu'ils parlent de standards, et en plus, standard, ça veut aussi dire étalon en anglais, ce qui complique un peu la compréhension. Nous, en France, on a tendance à distinguer un peu les normes qui sont élaborées par un processus itératif basé sur le consensus entre les parties prenantes, et puis les standards qui sont plus unilatéraux, si j'ose dire, au niveau d'une entreprise, bon, Microsoft par exemple, c'est des standards, hein, ou au niveau d'un consortium industriel qui décide de faire des normes propriétaires pour développer et faire prospérer une technologie. Le lien entre la métrologie et la normalisation se fait à travers ce qu'on appelle l'évaluation de la conformité, quand il s'agit de définir, par exemple, la conformité d'un jouet à une norme, eh bien, il faut faire des essais et avec des matériels qui sont étalonnés, et c'est là où se fait la jonction entre le software, qui est la norme qui décrit comment on fait l'essai et quels sont les seuils de performance à respecter, et les moyens d'essai qui permettent de mesurer de façon reproductible et représentative grâce à la norme la conformité. Je n'insisterai pas là-dessus, mais il y a eu tout un mouvement depuis la fin des années, depuis la création en fait de l'Organisation mondiale du commerce, pour développer ce qu'on appelle l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, qu'il s'agisse de l'accréditation des laboratoires ou de l'accréditation des organismes certificateurs, de façon à permettre des accords multilatéraux de reconnaissance réciproque des essais et des certificats pour faciliter les échanges au plan international. Il y a tout un univers de l'accréditation qui n'est pas mon propos aujourd'hui, mais que je signale en passant. Alors, si on regarde la chronologie historique, normalisation et métrologie sont étroitement imbriquées. En ce qui concerne la France, je fais remonter à 1795 avec la mesure du méridien terrestre et la loi sur les poids et mesures, qui sont une des deux contributions positives de la Révolution française à l'humanité, avec, bien entendu, la Déclaration des droits de l'homme. Donc, système métrique et déclaration des droits de l'homme. Et on va voir que, finalement, la boucle se boucle, puisque je terminerai mon exposé par une référence à l'ISO 26000 sur la responsabilité sociétale. Finalement, on peut faire le lien entre la mesure, entre cette époque et la nôtre. Alors, je n'évoquerai pas en détail la chronologie en France. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'au cours de ces deux siècles, la France a progressivement rationalisé son dispositif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dispositif français dans ce domaine est articulé pour la normalisation autour de l'AFNOR et de ses bureaux de normalisation, pour la métrologie autour du Laboratoire national d'essai et métrologie, et pour l'accréditation autour du COFRAC. Mais il y a eu des tas d'épisodes, puisque nous autres Français, nous sommes toujours partagés entre Napoléon et Astérix. Nous avons eu des périodes où on avait un peu dispersé nos forces et nos moyens dans ces domaines, mais à la fois sous la pression de la raison, cher Descartes, qui est un de nos concitoyens, et sous la pression internationale, nous avons été amenés à remettre un peu d'ordre dans notre dispositif français, qui est aujourd'hui, je dirais, vraiment dans le peloton de tête au plan international. Au plan européen, ce n'est pas une surprise, d'abord ça a démarré plus tard, puisque l'Union européenne est plus récente, mais normalisation, les normes européennes, il y a eu tout un effort d'harmonisation du marché intérieur, qui s'est fait selon un principe nouveau, qui n'est plus tellement nouveau parce que ça fait 20 ans qu'on applique, mais avant, quand on harmonisait des réglementations au plan européen, on les harmonisait en faisant des milliers de réunions de fonctionnaires à Bruxelles pour essayer qu'ils se mettent d'accord sur le pouilleb et la façon de réglementer dans le détail telle ou telle chose. Et ça n'a pas marché. C'est ce qu'on appelle l'ancienne approche. Et la nouvelle approche, qui est en vigueur depuis une vingtaine d'années, consiste à harmoniser les réglementations européennes dans tous les domaines industriels, depuis les jouets jusqu'aux appareils à pression, en passant par les dispositifs médicaux. On fixe au niveau européen des exigences essentielles en matière de sécurité et on renvoie à des normes basées sur le consensus approuvées au niveau européen, donc élaborées entre partenaires économiques et sociaux, le soin de fixer le détail pour remplir les exigences essentielles. Et ce dispositif se traduit concrètement par l'apparition du marquage CE sur les produits que vous pouvez constater dans les magasins où vous allez et qui traduit le fait que le fabricant ou le distributeur de produits a vérifié la conformité aux exigences essentielles, en général en s'appuyant sur les normes. Et la nouveauté récente, c'est que ce principe de la nouvelle approche qui s'appliquait au domaine des produits va être étendu au domaine des services qui font l'objet aussi, on se souvient de la directive Bolkestein, du plombier polonais, en matière de réglementation des services, il y a aussi une nouvelle approche qui va être prise pour harmoniser les exigences qualitatives vis-à-vis des services qui s'échangent à travers les frontières. Dans le monde, j'ai évoqué, c'est 1865, à la création de l'Union internationale des télégraphes, et vous avez ici la chronologie des événements, des principaux événements qui ont marqué à la fois la métrologie et la normalisation au plan international. J'ai mis notamment en 1987 la publication de la première norme ISO 9000 sur le management de la qualité, qui a été vraiment l'ouverture de la normalisation internationale au domaine du management, et qui depuis a prospéré, parce que nous en sommes aujourd'hui à la quatrième version des normes ISO 9000, et il y a plus d'un million d'entreprises dans le monde, dans 173 pays, qui sont aujourd'hui certifiés selon ce référentiel, qui a prospéré à cause de la mondialisation des échanges et du fait qu'il fallait pouvoir parler à un sous-traitant lointain le même langage quand il s'agissait d'avoir confiance dans sa capacité à produire la qualité. Qui élabore les normes ? Donc, j'ai déjà évoqué la hiérarchie des organismes institutionnels, l'ISO, la CEI et l'UIT, les organismes nationaux. L'ISO a aujourd'hui 163 pays membres, c'est-à-dire à peu près 98% de l'économie mondiale participe aux travaux de l'ISO. C'est l'organisation la plus représentative en termes de membres nationaux. Le système de l'ONU, dans lequel on trouve des organisations comme l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du tourisme ou l'Organisation internationale du travail, le système de l'ISO a vocation à harmoniser les politiques publiques et de plus en plus, comme on le trouve au niveau européen, ce que j'évoquais tout à l'heure avec la nouvelle approche, lorsque j'étais secrétaire général de l'ISO, j'ai passé de nombreuses conventions avec des agences de l'ONU pour que justement elles appliquent un peu le même principe de dire que leur rôle en tant qu'organisation intergouvernementale n'est pas de rentrer dans le détail, mais elles peuvent s'appuyer sur la référence aux normes dans l'harmonisation des réglementations techniques. Le processus de normalisation, pour les normes dont je parle. C'est un processus itératif et nous sommes en train de préparer avec Marie-Joseph un numéro des Annales des Mines sur la normalisation. Et nous avons invité des auteurs à nous parler de Wikipédia. Et le parallèle entre Wikipédia et la normalisation dont je vous parle est assez intéressant. Parce qu'il y a des points de convergence, ce sont des processus itératifs avec un travail collaboratif pour se mettre d'accord alors sur la formulation du savoir dans le cadre de Wikipédia, sur la formulation du savoir-faire dans le cadre de la normalisation, avec des validations qui sont faites. Alors le système Wikipédia est très différent quand même de la normalisation institutionnelle où il y a des aspects formels, hein. Par exemple le consensus dans la normalisation, on le vérifie avec des votes, et des votes par pays. Wikipédia, il y a une espèce de police interne avec des différents niveaux d'intervention dans la correction du texte, mais c'est assez intéressant de faire le parallèle parce que finalement les deux processus sont les enfants de la mondialisation du savoir et du savoir-faire, et aussi de la volonté d'avoir une participation des parties prenantes à la cristallisation de ce savoir ou de ce savoir-faire. Je n'entrerai pas trop dans les détails. Le contexte global, alors bon, c'est un sujet d'actualité parce que dans la campagne présidentielle, on oppose globalisation et bien-être national, etc. Et c'est vrai qu'il y a... Et on m'a dit d'ailleurs qu'il y avait une nuance entre globalisation et mondialisation. Globalisation, c'était plutôt péjoratif, et mondialisation, c'était plutôt bien. Je ne sais pas ce qui est le mieux, mais il est clair qu'on ne reviendra pas en arrière, très probablement, sur la mondialisation des échanges commerciaux. Nous avons toute une série d'autres sujets qui sont maintenant globalisés et pour lesquels il faut qu'on nous sommes en interdépendance, hein. Bon, c'est des évidences de dire que le changement climatique, que les défis corrélés du changement climatique, de l'énergie, de l'eau et de l'alimentation, et d'une certaine façon aussi de la démographie, ces défis ne peuvent avoir que des réponses globales dans lesquelles il faut qu'on s'entende, non seulement sur un certain nombre de définitions, mais sur un certain nombre d'actions pour lesquelles les métriques dont je vous parle, les normes et la métrologie, vont être indispensable au plan international. Quand on va parler d'empreinte carbone, par exemple, c'est difficile de dire qu'il y a une empreinte carbone française, une empreinte carbone dans un autre pays. Il faut se mettre d'accord sur la façon de déterminer l'empreinte carbone. Bon, ce qu'on a vu aussi au cours des dernières décennies, c'est l'émergence de nouveaux géants économiques qui, de standard takers, c'est-à-dire ceux qui prennent les normes et les appliquent, et les Chinois ont fait ça très bien pendant des décennies, c'est-à-dire de prendre les normes internationales et de les utiliser pour faire de l'entrisme dans les autres marchés. Mais aujourd'hui, ces grandes économies, elles veulent aussi être des standards makers, c'est-à-dire qu'ils veulent être aussi du côté de ceux qui fixent les règles et les normes. Et moi, j'ai vu ça dans mon passage à l'ISO, et je l'ai encouragé d'une certaine façon parce que j'ai souhaité que ces grandes économies émergentes s'impliquent dans la normalisation internationale plutôt que de fermer leur marché avec des normes nationales. On a vu aussi qu'avec les grandes catastrophes naturelles, prenez le tsunami, le tsunami qui en Indonésie a été l'occasion. Il y a des dizaines de pays qui sont intervenus sur le terrain pour aider les sinistrés. Mais si les tuyaux d'eau ou d'électricité ne s'emboîtent pas, si il n'y a pas de compatibilité et d'interopérabilité entre les matériels, vous imaginez la tour de Babel à laquelle ça correspond. Donc, vous verrez tout à l'heure qu'au niveau de l'ISO, il y a des travaux sur la situation, la gestion des situations de crise, sur des problèmes qui sont maintenant mondiaux d'intervention dans des situations critiques, qu'il s'agisse des épidémies ou des catastrophes naturelles. Et puis, la crise financière mondiale a ouvert aussi un nouveau champ pour la normalisation des bonnes pratiques en matière financière. Donc, un contexte qui a progressivement fait émerger comme une priorité le niveau international pour l'élaboration des normes dont je parle. Alors, il y a un cadre qui a été donné à tout ça. Donc, je vous ai parlé de l'accord sur les obstacles techniques au commerce de l'OMC. En gros, cet accord, il y a 153 pays signataires de cet accord, et qui dit, qui engage les signataires à ne pas créer d'obstacles techniques au commerce, qui ne seraient pas justifiés par les considérations de sauvegarde des populations, et qui les engage à utiliser les normes internationales du type de celles dont je vous parle, plutôt que de réinventer des règles nationales. Et cet accord, qui oblige à notifier les projets de réglementation et qui engage les signataires à utiliser chaque fois que c'est possible les normes internationales, a été un puissant levier depuis 1980, date de signature du premier accord de ce qui s'appelait à l'époque le GATT, et puis aujourd'hui l'OMC, donc ça fait 21 ans. J'étais personnellement impliqué d'ailleurs à l'époque dans la négociation de cet accord. À l'époque, il y avait une cinquantaine de pays membres, maintenant il y en a 153, ça a été un puissant levier pour encourager l'utilisation des normes internationales. Alors il y a un phénomène qui est un peu, qui pourrait paraître contraire à ça, qui est la cristallisation de grandes régions économiques dans le monde. Bon, l'Union européenne en est le premier exemple, évidemment, avec ce que j'évoquais tout à l'heure, de création du marché intérieur, d'harmonisation des règles techniques à l'intérieur de l'Union européenne, donc l'espace économique européen, parce que ça déborde de l'Union européenne. Et puis on a vu ailleurs, hein, l'ASEAN, le Mercosur en Amérique du Sud, le groupement des États du Golfe, la communauté des États indépendants, et toutes ces grandes ensembles régionaux ont tous adopté des politiques d'harmonisation de leur marché intérieur. Et on les a incités, et on les incite, et l'accord de l'OMC que j'évoquais les incite, à ne pas faire des normes purement régionales, mais à adopter les normes internationales pour faciliter la création de leur propre marché intérieur. On a parlé des grandes économies émergentes et de l'ONU. Et puis, il y a aussi quelque chose qui s'est répandu dans l'ensemble du globe, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, les bonnes pratiques en matière de réglementation, qui consistent à ne pas mettre dans la réglementation le détail technique, mais à renvoyer ça à des normes élaborées avec la participation de l'ensemble des parties prenantes. Donc les trois grandes organisations basées à Genève que j'évoquais tout à l'heure, l'ISO a priori est multidisciplinaire, donc dès qu'il y a un sujet pour lequel il y a un consensus suffisant pour élaborer une norme internationale, c'est l'ISO qui est sollicité. Alors, dans le domaine plus précis de l'électrotechnologie, c'est la Commission électrotechnique internationale. Et puis, dans le domaine des télécoms, c'est l'UIT. Mais on comprend aujourd'hui qu'il y a une convergence de ces technologies. Le meilleur exemple étant le véhicule électrique qui, à lui seul, combine des normes mécaniques, des normes électriques, des normes électroniques et des normes de télécommunication. Et donc, il ne peut pas y avoir trois univers séparés de normalisation. Et ces trois organismes sont évidemment amenés à travailler de façon très étroite avec des groupes de travail communs. Par exemple, l'ISO et la CEI ont un comité technique commun dans le domaine de l'informatique. Les programmes de normalisation sont coordonnés entre ces trois organisations de façon à éviter des doublons ou, plus grave encore, des incohérences dans les normes qui ne permettraient pas l'interopérabilité entre ces technologies. Le système ISO, j'en ai déjà parlé, je ne reviens pas trop dessus. Ce qui est important de signaler quand même, c'est que la collection des normes ISO est de plus de 19 000 normes. Donc, si vous voulez, c'est assez impressionnant. On peut dire, mon Dieu, quelle horreur! Mais aucune de ces normes n'est obligatoire. Et l'élaboration d'une norme ISO fait l'objet d'un processus consensuel. On décide ou pas de se lancer dans un nouveau domaine ou de se lancer dans une nouvelle norme. Ce n'est pas quelque chose qui est décidé à Genève par des apparatchiks ou une administration obscure qui déciderait un beau matin de faire une norme sur tel ou tel sujet. Il y a aussi des votes pour décider est-ce qu'on se lance ou pas dans des nouveaux travaux de normalisation. Quand je vous présenterai tout à l'heure comment on s'est lancé dans la responsabilité sociétale, vous comprendrez peut-être mieux ces 19 normes dont je vous parle, aucune n'est obligatoire. Alors, bien entendu, elle s'impose d'une certaine façon dans les relations entre acteurs économiques, parce que c'est tellement plus facile de faire référence à une norme ISO pour décrire une exigence entre un donneur d'ordre et un sous-traitant que de réinventer une spécification particulière. Donc c'est vrai qu'elles interviennent dans les relations entre acteurs économiques, mais elles n'en sont pas en tant que telles obligatoires. La production annuelle est de l'ordre de 1200 normes nouvelles ou révisées, puisqu'il y a un processus de révision. Chaque norme nouvelle publiée au bout de 3 ans, on doit se poser la question, est-ce qu'on doit la modifier ou pas? Et ensuite, en régime de croisière, tous les 5 ans au minimum, on lance un processus de révision. C'est-à-dire que les normes suivent les évolutions de la technologie et de la science et des bonnes pratiques. Donc voilà l'évolution. Vous pouvez voir que pendant la période où j'ai exercé à l'ISO, il y a eu un accroissement très significatif. En 2003, quand je suis arrivé à l'ISO, il y avait 12 000 normes ISO. Et en l'espace de 10 ans, même moins, la collection a augmenté de plus de 7 000 normes. Et ce n'est pas moi qui les ai faites, hein. Ça a été fait par tout un dispositif. Vous avez vu dans la slide précédente qu'il y a 224 comités techniques actifs, 3000 groupes de travail, sous-groupes, etc., qui travaillent dans le monde et qui utilisent intensément Internet, parce que les outils de travail collectif sur lesquels s'appuie la normalisation sont extrêmement performants et permettent de faire travailler des centaines de personnes et d'experts à travers le monde pour arriver à converger. Alors rien ne remplace les réunions physiques, et chaque jour dans le monde, il y a une quinzaine de réunions ISO quelque part sur la planète. De plus en plus d'ailleurs dans la région Asie-Pacifique, parce que le moteur, les grandes économies émergentes, comme la Chine, la Corée, prennent de plus en plus de responsabilités dans la normalisation, et du coup ils invitent les réunions à se tenir chez eux, et quand vous proposez dans une réunion internationale où est-ce qu'on se réunit la prochaine fois, c'est sûr que la Chine avait beaucoup de succès, parce que les gens voulaient aller voir la tête que ça avait, et les Chinois, pendant la période où j'étais secrétaire général, ont décidé de façon stratégique de s'investir dans l'ISO et ils sont partis pratiquement de zéro responsabilité. Aujourd'hui, ils détiennent 5% des secrétariats de comités techniques et de sous-comités techniques et dans des domaines qui ne sont pas négligeables. Alors, ils ont repris le comité technique numéro 1 qui s'intéresse au pas de vis. Alors là, il n'y a plus beaucoup de normes parce que les normalisations sont déjà assez figées, mais ils l'ont prise de façon symbolique, mais ils ont pris par exemple le chantier naval, ils ont pris le textile, ils ont pris l'efficacité énergétique, enfin, ils ont pris un certain nombre de sujets qui aujourd'hui sont tout à fait d'actualité. En ce qui concerne les normes de management, j'ai déjà évoqué la norme ISO 9000 et la certification ISO 9000, vous voyez, plus d'un million. C'est à peu près 1,1 million d'entreprises et d'organisations, parce que ça ne s'applique pas seulement aux entreprises, qui sont certifiées ISO 9000 dans le monde, dans 174 pays. Dans le domaine environnemental, qui est la petite sœur de l'ISO 9000, qui est la norme ISO 14000, là aussi, la progression a été très importante, puisqu'aujourd'hui, il y a à peu près 250 000 entreprises et établissements certifiés ISO 14000 dans 155 pays. Et maintenant, je vais essayer de vous donner des choses un peu plus illustrées en prenant, c'était le parti qu'on a pris pour cette conférence, les trois dimensions du développement durable et la contribution de la normalisation à ces trois dimensions. Trois dimensions qui sont le développement économique à travers la facilitation des échanges, à travers la diffusion de l'innovation, à travers l'évolution des pays en développement vers le statut de pays développé, l'intégrité environnementale à travers le management environnemental que j'ai évoqué, à travers toute la technologie associée à la maîtrise et au contrôle de l'environnement, mais à travers aussi tout ce qui concerne l'efficacité énergétique. Une des petites dernières dans les normes de management, c'est la norme EN50001 sur le management de l'énergie, qui est une norme qui connaît grand succès. Et puis dans le domaine sociétal, je vais également vous donner des exemples de contribution de la normalisation. D'abord, parce que plusieurs d'entre vous sont des scientifiques, simplement pour vous faire réfléchir que dans la plupart des grands chantiers technologiques du 21e siècle, si on y réfléchit, on ne peut pas se passer de normalisation. Prenez les nanotechnologies, il y a un comité technique à l'ISO sur les nanotechnologies qui a commencé d'abord à travailler sur la terminologie, qu'est-ce qu'on appelle une nanoparticule, qu'est-ce qu'on appelle une nanochose, une nanotruc, hein, qui travaille sur l'impact des nanoparticules sur l'environnement et sur la sécurité, et qui travaille sur la taxonomie, c'est-à-dire la typologie des nanoparticules et des nanocomposants. Donc, on a besoin, dans ce domaine-là, scientifique, pour que les scientifiques puissent savoir de quoi ils parlent à travers les frontières, eh bien, il y a de la normalisation. Prenez l'efficacité énergétique. On est dans un domaine où, sans parler du rendement d'une chaudière, on comprend bien qu'il faut normaliser la façon d'évaluer le rendement d'une chaudière, plus difficile, comment est-ce qu'on mesure l'efficacité énergétique d'un bâtiment? Comment est-ce qu'on détermine, à partir d'une méthode holistique, dans toutes les caractéristiques d'un bâtiment, sa consommation? Eh bien, il y a maintenant une norme, une directive européenne sur l'étiquetage énergétique des bâtiments qui s'appuie sur des normes. Les énergies renouvelables, prenez les questions d'interopérabilité, prenez les questions de performance, on comprend bien, là aussi, on ne peut pas développer les énergies renouvelables sans normalisation. Le smart grid, etc., etc., je pourrais vous citer d'autres sujets, l'Internet, évidemment. Si vous prenez un exemple simple, comment est-ce qu'un caractère cyrillique envoyé de Moscou arrive cyrillique sur votre ordinateur? Bon, eh bien, derrière, il y a une norme ISO, hein, qui permet de codifier le caractère cyrillique et de s'assurer qu'il arrive chez vous à peu près correctement. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, et ça, ce n'est pas la faute des normes, c'est plutôt la faute des ordinateurs. Et puis je pourrais multiplier les exemples à l'infini de contributions au grand chantier du XXIe siècle. Alors, premier aspect que je voulais développer, c'est qu'on oppose souvent, et on m'a annoncé que j'aurais des questions, donc on aura peut-être là-dessus, normalisation et innovation. On dit la normalisation, c'est un frein à l'innovation, parce que ça fige, et je prétends le contraire, si vous voulez. Hein. C'est que d'abord, on peut comprendre, quand on regarde les chiffres, le nombre de chantiers de normalisation, j'ai pas souligné ça tout à l'heure, mais aujourd'hui, rien qu'à l'ISO, il y a 4000 chantiers de normalisation ouverts. Qui participe à ces chantiers de normalisation? Eh bien, ce sont les entreprises qui sont le plus en pointe dans le domaine. Ce sont à la fois ceux qui sont du côté de la production, ceux qui sont aussi les clients de ces entreprises. Donc, le suivi du travail normatif est à une mine d'intelligence économique, si on veut bien s'y arrêter, de surveiller ce qui se passe dans la normalisation à travers les sites internet des principales organisations, c'est un outil d'intelligence économique. L'interopérabilité, là encore, les exemples foisonnent où les normes rendent des mines en service. Je prends deux exemples, un exemple récent, par exemple, hein. Les machines à café. Les filtres à café. Bon, vous vous souvenez certainement d'une époque où chaque fabricant de machine à café avait sa taille de filtre. Hein. Bon, maintenant, vous avez une norme avec des tailles de filtres, entre 4 tailles de filtres, qui vous permet de vous affranchir pour l'achat de votre filtre en papier du fabricant de la machine que vous allez équiper. L'exemple plus récent, qui va sûrement donner lieu à la normalisation, la machine Nespresso. Hein. Nespresso a eu longtemps le monopole grâce à ses technologies. Et puis, ça y est, maintenant, il y a des concurrents qui sont apparus. Et bientôt, on va être amené à normaliser les capsules qui permettent de faire du café selon cette technologie, c'est-à-dire une capsule qu'elle emmène du café, puis on tire, on fait des trous, et avec de l'eau chaude, on fait le café. Dans le domaine de la normalisation, l'échange de données, c'est aussi quelque chose qui est aujourd'hui absolument fondamental. Hein. Vous avez toute une série de normes ISO sur l'automatisation dans l'industrie, avec la possibilité d'échanger des données sur les pièces, par exemple, et de codifier les données à la fois, disons, technologiques, pour faire simple, sur les pièces à fabriquer. La gestion de projet, l'évaluation a priori des impacts environnementaux et sociétaux de l'innovation. Et puis plus récemment, on a commencé à s'intéresser, alors ça va peut-être faire froncer les sourcils à certains d'entre vous, mais le management de l'innovation, c'est quelque chose qui est arrivé maintenant au stade de la normalisation des bonnes pratiques. Et dans le management de l'innovation, il y a notamment le management de la propriété industrielle. C'est quelque chose pour lequel on peut profiter de l'expérience des autres en le mettant dans une norme, et actuellement il y a un chantier européen sur ce sujet-là. Donc, normalisation et transfert de l'innovation, les normes sont un véhicule de transfert d'innovation et il n'y a pas, à la limite, de succès durable d'une innovation sans, à un moment donné, intervention de la normalisation. Et on a vu qu'il s'agisse, prenez la télévision en couleur et le codage des images vidéo, les normes MPEG, qui sont des normes ISO, UIT, CEI, donc c'est les normes qui ont été faites sous le thème des trois organismes. Ces normes MPEG, c'est ce qui vous permet de voir la télévision sur votre poste chez vous, sur votre ordinateur ou sur votre téléphone portable. Et derrière ça, il y a tout un back-office, si vous voulez, à base de normes qui permet de codifier l'image vidéo à l'origine de façon à ce qu'elle puisse être lue sur différents types de supports. Alors, j'insisterai pas sur la deuxième fonction dans le domaine de la dimension développement économique et développement durable, c'est l'accès aux marchés globaux. Je n'ai pas besoin de faire un dessin là-dessus, mais il est certain que le développement de la normalisation internationale a permis d'ouvrir les marchés et de faciliter les échanges transfrontières. Alors on peut le regretter, mais c'est un fait d'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est difficile pour un pays comme la France de vouloir refermer ses frontières et frileusement de se remettre à faire du protectionnisme. J'étais dans l'administration à une époque fort ancienne, dont je ne citerai pas qui était le Premier ministre à l'époque, mais où on me demandait, parce que j'étais en charge à ce moment-là dans l'administration de la politique dans ce domaine-là, de faire des normes à caractère protectionniste. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas être naïf non plus, mais il faut essayer d'influencer le contenu des normes qui finalement régissent les relations entre acteurs économiques au plan régional ou mondial. On a vu aussi dans les chaînes globales d'approvisionnement, prenez un exemple simple, les containers. Ça s'est développé après la guerre. Aujourd'hui, on n'imagine pas que la chaîne logistique internationale puisse se passer des containers normalisés. Derrière ça, vous avez toute une série de normes ISO qui non seulement définissent les dimensions, mais aujourd'hui définissent les informations associées à un conteneur individuel. Alors évidemment, on peut toujours truander et mettre quelques personnes dans le conteneur ou des personnes qui s'introduisent en fraude, mais il y a quand même maintenant une information codifiée sur le contenu des conteneurs qui permet un contrôle de la circulation des marchandises ce qu'on appelle le e-business, les signatures électroniques, la validation des transactions commerciales, les paiements par Internet, tout ça, en back-office, il y a des normes qui permettent de sécuriser les paiements, et ça a été certainement un des moteurs de ce qu'on appelle le e-business, et maintenant on a le m-business qui se développe, et là aussi, avec des normes derrière. Alors la deuxième dimension du développement durable, c'est la dimension environnementale, et dans ce domaine-là, la série la plus célèbre de l'ISO, c'est la série des normes ISO 14000. Alors, on a tendance à la réduire au management environnemental, mais vous avez au moins une quinzaine de normes ISO 14000 qui traitent de sujets aussi divers que l'étiquetage environnemental, que la communication environnementale. Et il y a également actuellement un comité technique qui travaille sur l'empreinte carbone et la façon d'harmoniser au plan international comment on définit et comment on mesure l'empreinte carbone. Et donc il y a tout cet univers-là. En relation avec le changement climatique, qui est un sujet d'actualité, vous savez qu'actuellement on essaye de renouveler le fameux protocole de Kyoto et d'essayer de l'étendre les obligations des pays en matière de réduction de gaz à effet de serre dans le cadre d'un traité. Vous avez entendu parler de la conférence de Durban récemment, avant ça à Cancun, conférence des Nations Unies cadre sur le changement climatique. Et lorsqu'on fixe les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, il faut avoir les métriques qui sont associées à ça. Parce que qu'est-ce qu'on appelle au niveau d'un projet, surtout si en plus on donne une valeur et qu'on permet d'avoir des échanges de droits d'émission, eh bien, si on n'a pas une métrique qui permet de dire a priori ce projet ou cette usine, cette technologie va permettre de réduire de tant de tonnes de carbone les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, là aussi, il y a un back-office normatif, parce qu'il faut se mettre d'accord sur la façon dont on mesure et dont on vérifie les émissions de gaz à effet de serre. Donc, derrière les marchés d'échange de droits d'émission, qui est un des grands enjeux de cette conférence que j'évoquais, il y a toute une série de normes, encore une fois, internationales, qui entrent en ligne de compte. Dans le domaine énergétique, j'avais lancé, durant mon temps, tout un programme sur l'harmonisation des bonnes pratiques et des métriques dans le domaine de l'efficacité énergétique, et l'ISO a lancé un programme qui s'est concrétisé notamment par la publication d'une norme, l'ISO 50001, sur le management de l'énergie, qui connaît un succès important et qui donne des bonnes pratiques en matière de gestion énergétique au niveau d'une organisation. Si vous prenez les technologies propres, il y a des normes internationales sur l'éco-conception des produits, sur l'éco-conception des bâtiments. Vous trouverez ça sur le site de l'ISO. Et il y a là, encore une fois, de grandes ressources de savoir collectif et de l'intelligence collective sur ces sujets d'actualité. La nouvelle frontière dans ce domaine des métriques, c'est celle de l'eau, parce que tout le monde sait que l'eau va être un des problèmes majeurs du XXIe siècle, même si on dit que, pareil, qu'on a fait des découvertes fantastiques dans les sous-sols africains avec des réserves d'eau extraordinaires, ça n'empêche que c'est une source d'enjeu et que l'utilisation rationnelle de l'eau va prendre sans doute une place équivalente à celle de l'utilisation rationnelle de l'énergie. Et là aussi, on a besoin de métriques pour savoir qu'est-ce qu'on appelle. Par exemple, les Australiens ont tout un programme de labellisation des équipements domestiques dans le domaine de l'eau, et il y a un étiquetage des cuvettes de WC pour que les systèmes de cuvettes de WC aient une efficacité dans le domaine de l'eau, comme on cherche une efficacité pour les chaudières ou pour les voitures en matière de consommation énergétique. Et puis la gestion des déchets est aussi un sujet. Si vous allez sur le site de l'ISO, vous allez voir qu'il y a 15 jours, il y a un communiqué sur la publication d'une norme internationale sur la classification et la terminologie en matière de déchets, parce que c'est aussi un sujet important qui est un préalable à un traitement industriel de la chose. Un autre aspect qui s'est développé, qui a, disons, une composante à la fois industrielle et sociétale, c'est la gestion, ce qu'on appelle le business continuity management, la gestion de continuité des opérations et le management du risque. Et là aussi, la normalisation, parce que c'était une préoccupation de beaucoup d'entreprises et d'organisations du monde, comment est-ce qu'on peut codifier, cristalliser les bonnes pratiques en matière de gestion du risque. Et bien, l'ISO a sorti une norme générique sur le management du risque. Sur la sécurité de l'information, on comprend bien l'importance de pouvoir attester quand on est une société de services en informatique, qu'on est un développeur de logiciels, ou qu'on est un fournisseur de services, comment est-ce que je garantis la sécurité de mon système. Alors, il n'y a pas de garantie absolue parce que les hackers sont partout, mais ça n'empêche qu'il peut y avoir une approche en matière de sécurité de l'information qui soit systématique, et c'est ce qui a été transposé et, dans le cadre d'une norme internationale qui est la norme ISO 27000 sur la sécurité de l'information, etc. Peut-être un mot sur, parce que c'est un nouveau champ normatif, à la suite du tsunami notamment, il y a donc maintenant, c'était le tsunami de 2004, 2005, quelque chose comme ça, au Japon, hein, je parle, il y a eu une prise de conscience internationale sur le fait, comme je le disais tout à l'heure, les 30 pays qui arrivent et les tuyaux ne s'emboîtent pas, sur le fait qu'il y avait un problème commun à l'humanité, c'était comment on réagit face à des situations d'urgence et comment on s'y prend. Et donc, il y a des pratiques qui ont été développées dans différents pays, et du coup, ceux qui ont développé ces pratiques se sont rapprochés, et il y a maintenant un comité technique de l'ISO sur la sécurité societal security, donc ce qu'on pourrait appeler en français la sûreté sociétale, je ne sais pas exactement comment ça se traduit en français, et qui échange sur ces bonnes pratiques en matière de gestion de crise. Et je vous renvoie là aussi au site de l'ISO pour ceux que ça intéresse. Enfin, la normalisation traditionnellement s'adresse à des risques spécifiques. Donc il y a toute une famille de normes sur les dispositifs médicaux, par exemple, toute une famille de normes sur la sécurité alimentaire, pour prendre ces exemples-là. Récemment, on a sorti une norme sur la gestion de la sécurité routière, sujet qui fait l'objet de politiques publiques dans lesquelles les bonnes pratiques prenaient la gestion d'un parc de poids lourds ou d'un parc de cars de transport collectif, eh bien, ça se gère. Et il y a des bonnes pratiques pour ça, autant les échanger au plan international. Un autre aspect sociétal, traditionnellement, les normes protègent les consommateurs et les informent. Les normes interviennent en matière de sécurité du travail, sécurité des machines, ergonomie, et il y a des centaines de normes dans ces domaines-là. Un chantier actuel intéressant, c'est celui de ce qu'on appelle les réseaux domiciliaires, c'est-à-dire le fait qu'on puisse interconnecter des logements avec tous les médias qui sont susceptibles de leur arriver de l'extérieur, ou qu'on puisse commander des choses à distance, etc. On voit bien qu'il y a des problèmes d'interface, et là aussi, tout un back-office de normalisation. Prenez la mobilité, l'e-mobility, c'est-à-dire les voitures électriques, c'est un champ, alors là, je dirais presque canonique de la normalisation, parce qu'on a des interfaces partout, on a des interfaces pour recharger le véhicule électrique sur une borne. Il faut que cette borne elle s'inscrit dans le cadre d'un réseau sur lequel, parce que savez-vous que quand on charge un véhicule à 23 kW, qui est la charge qui permet de charger en une demi-heure, eh bien, on fait appel sur le réseau à l'énergie équivalente, l'électricité équivalente d'un petit immeuble. Hein. Donc, si vous voyez, la gestion en back-office de la charge des véhicules électriques, de la charge rapide, de la charge accélérée des véhicules électriques, ça pose des problèmes sur le réseau électrique. Il y a aussi, entre le véhicule et la borne, et puis il y a aussi le véhicule électrique dans la nature qui a besoin de savoir où est la borne où je vais pouvoir me recharger, au secours, je n'ai plus que 5 km dans mon moteur parce que l'autonomie est faible. Aujourd'hui, on tourne autour d'une centaine de kilomètres à l'autonomie des véhicules électriques. Donc, on va se leurrer. Si en plus on met le chauffage, si on met la climatisation en été, on est plutôt autour de 80 km d'autonomie qu'autour de 200 ou 250. Hein. Donc, le véhicule électrique ne pourra se développer que si on sécurise l'automobiliste au niveau de la recharge de son véhicule. Et donc, il faut savoir où est-ce qu'il y a les stations. C'est là où intervient les télécoms et la communication entre le véhicule électrique et le réseau de fourniture d'électricité. Donc, dans le domaine sociétal, il y a aussi des nouveaux chantiers. Hein. J'ai déjà parlé de l'informatique médicale. Savez-vous, par exemple, que sur la contrefaçon, nous avons créé un comité technique à l'ISO sur comment détecter des contrefaçons, hein. Puisque tous les services douaniers du monde avaient ce problème, comment, quel est le vocabulaire qu'on utilise, etc. Il y a un comité technique sur le sujet. Et puis, le chantier sur lequel je vais terminer, c'est celui de la responsabilité sociétale, qui est un chantier que j'ai démarré à l'ISO. C'est apparu sur l'écran radar de l'ISO au début des années 2000, parce que la responsabilité sociale des entreprises, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait, la RSE, était devenue un sujet pour toutes sortes de raisons. D'abord parce qu'il y avait un certain nombre de scandales, notamment aux États-Unis, qui avaient mis le doigt sur l'opacité des pratiques des grands groupes en matière de communication, par exemple, hein, vers non seulement leurs actionnaires, mais le public en général. On a vu aussi une évolution du management de la qualité. Les premières normes ISO 9000 étaient assez reliées à des relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Le management de la qualité a évolué vers une satisfaction plus globale, non seulement la satisfaction des clients, la satisfaction aussi du personnel, la satisfaction des actionnaires, la satisfaction des communautés dans lesquelles on travaille. Et donc, cette notion de responsabilité sociétale a vraiment s'est développée à la fin du siècle dernier, au début de ce siècle. On a vu l'OCDE publier des principes directeurs pour les multinationales en matière de responsabilité sociétale. On a vu au niveau des Nations Unies, le prédécesseur de Ban Ki-moon, Kofi Annan, qui a voulu encourager, vous vous souvenez, les objectifs du millénaire. Hein, les objectifs du millénaire, c'est quelque chose qui nécessitait un engagement, pas seulement des États, mais aussi un engagement de tous les partenaires, et notamment des grandes entreprises multinationales qui se développaient dans le monde et qui investissaient, et qui ont un rôle, un poids économique dans le monde. Tout à fait important. Je crois que la première société mondiale a un budget aussi important que celui de la Californie. Donc, en termes de d'acteurs pour atteindre les objectifs du millénaire, il fallait que les grandes entreprises aussi s'impliquent. Et c'est ce qu'a fait Kofi Annan en créant le pacte global de l'ONU, UN Global Compact, qui a été créé en 2000, je crois, et qui a commencé à développer et à partager des principes d'éthique entre les sociétés. Et puis, les organisations de consommateurs ont vu arriver la notion de responsabilité sociale comme un argument de vente et de marketing. Donc, après l'écolo-marketing, hein, les étiquettes vertes, l'affichage environnemental, on a vu apparaître l'éthico-marketing, les sociétés qui se réclamaient d'une responsabilité sociale. La France a été une des premières à légiférer en la matière, puisque la première loi RSE qui obligeait les sociétés cotées à publier un rapport environnemental et sociétal date de 2002. Alors le Grenelle de l'environnement a débouché sur une obligation plus large. Malheureusement, le décret d'application de la loi qui a posé le principe d'étendre la notion de rapport environnemental et sociétal, ce décret, je crains qu'il ne sorte pas avant le deuxième tour des élections, ce qui serait dommage, mais il y a eu en France, le législateur s'est saisi de ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est que la responsabilité sociale est arrivée à l'ordre du jour du G8 et du G20, donc on en parle dans ces instances. Et le résultat de ça, c'est qu'on a vu une prolifération de référentiels pour une entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être socialement responsable? Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Et quelles sont les métriques associées à ça? Au début, enfin, il y a une dizaine d'années, on a vu des centaines de référentiels. Nous, à l'ISO, quand on a commencé à s'intéresser au sujet, on a répertorié plus d'une centaine d'initiatives et de référentiels dans le monde qui permettaient à une entreprise de se déclarer à divers degrés socialement responsable. Donc prolifération et apparition aussi de ce qu'on a appelé les audits sociaux ou la notation sociale. Vous vous souvenez de Nicole Nota, et vous savez qu'elle est passée de la CFDT directement à une entreprise qu'elle a créée pour la notation sociale, qui s'appelle Vigéo. Et très rapidement, on a été confronté à la nécessité de définir des indicateurs. Quels indicateurs est-ce qu'on définit? Quelles métriques est-ce qu'on va pouvoir mettre en place? Et donc, à un moment donné, il y a 10 ans, les entreprises elles-mêmes ont commencé à dire avec les consommateurs, mais on ne s'y retrouve plus, qu'est-ce que ça veut dire exactement la responsabilité sociale? Est-ce que ça s'applique uniquement aux entreprises? Ou est-ce que le gouvernement, les ONG doivent aussi être socialement responsables? Il faudrait qu'on harmonise les bonnes pratiques au plan international. Donc on s'est tourné vers l'ISO, et c'est moi qui étais en charge à cette époque-là, et on a dit, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous, aider à nous mettre d'accord au plan mondial, et avec une approche qui implique toutes les parties prenantes, et elles sont nombreuses sur ce sujet-là. Donc, je vous passe les étapes, mais disons qu'on a commencé parce que, c'est évident qu'on s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment à l'ISO de faire des normes dans ce domaine-là, après tout on sort un petit peu, ou est-ce que c'est une évolution naturelle? Parce que finalement, en 1987, on s'est intéressé aux questions de management. On a fait le management de la qualité, le management de l'environnement, le management de l'énergie. Est-ce que ce n'est pas une évolution naturelle de notre implication dans l'harmonisation des bonnes pratiques de management que de nous intéresser à la responsabilité sociétale? Donc, disons, fidèle à nos principes, on a fait un processus bottom-up, comme on dit, avec une conférence internationale en 2005 qui nous a confirmer que oui, il y avait un consensus international pour que ce soit l'ISO plutôt qu'une organisation onusienne. Parce que l'idée, c'était, on ne veut pas une réglementation, c'est pas possible à réglementer un sujet comme ça à travers le monde. Il y a peut-être disparité du développement économique et social à travers le monde qu'on n'a jamais arrivé à faire une loi, ou alors à faire du protectionnisme déguisé. Il faut se souvenir aussi que dans certaines élections, pendant les élections, l'élection d'Obama par exemple, à l'époque de la campagne, donc il y a 4 ans, la notion de normes sociétales, normes environnementales pour protéger les cols bleus dans le nord-est des États-Unis, c'était vraiment un sujet de campagne, ça. Et donc, nous voilà partis en 2005 pour monter un comité technique pour élaborer cette norme. Alors, on a adopté une approche un peu plus formelle que d'habitude, c'est-à-dire qu'on a demandé à chaque pays de s'organiser avec 5 catégories de parties prenantes. Donc les industriels, les consommateurs, les gouvernements, les ONG et les autres, de constituer leur délégation de façon paritaire entre ces cinq parties prenantes. Par ailleurs, on a associé toutes les organisations internationales importantes qui avaient développé des documents dans ce domaine-là. Et à la fin du processus, on avait 42 organisations internationales, plus de 99 pays qui ont participé à ce processus, qui au départ était assez bordélique, je dois dire. La première réunion El Salvador de Bahia a été assez bordélique parce que la plupart des gens, c'était un groupe d'experts de 450 personnes qui venaient d'une cinquantaine de pays, dont 80% n'avaient jamais participé à des travaux de normalisation. Et donc, ils venaient avec des pancartes, les industriels venaient avec des carapaces en disant « Jamais on va nous faire une norme certifiable, on ne veut pas de ça. » Alors, c'était intéressant parce que il y avait les deux opinions. Il y avait les industriels qui disaient « Mais si, dans le fond, maintenant, regardez, il y a 100 référentiels, on est des agences de notation, on doit remplir des tas de papiers pour se justifier. » Harmonisons plutôt la terminologie et les pratiques. Il y avait ceux qui disaient « Ah oui, mais si vous faites ça, il y aura des certificats obligatoires et nous, on ne veut pas de ça. » Les syndicats, vous avez des syndicats qui disaient « C'est nous, hein. Nous, on veut faire, si on fait une norme comme ça, on va le faire dans le cadre de l'Organisation internationale du travail, parce que là, c'est tripartite entre le patronat, les syndicats et les gouvernements, et on ne veut pas que les autres, les consommateurs, les environnementalistes, on ne veut pas que tout cela se mêle du sujet. Donc, il y avait les syndicats qui étaient opposés à ça. Il y en avait d'autres qui disaient, mais dans le fond, c'est peut-être pas mal, parce que si on avait un document international, quand on discute en CHSCT ou en comité d'entreprise vis-à-vis de ce que pratique notre management, eh ben, on aurait au moins un référentiel de bonnes pratiques, on aurait au moins des termes. Puis du côté des gouvernements, il y en avait qui disaient « Mais attendez, s'il y a un document international, l'inspecteur du travail, quand il va aller dans une usine, l'entreprise va lui dire « Écoutez, moi je suis désolé, j'applique une norme internationale, donc vous dites que selon vous, il faut faire ça, mais enfin bon, non. » Et puis il y avait aussi les inspecteurs du travail et les administrations du travail qui disaient « Ben oui, dans le fond, ce serait bien que pour faire progresser l'éthique des entreprises, qu'on ait un référentiel commun. » Donc, avec tous ces points de vue, et en définitive, comme vous voyez là, on a associé 99 pays à ce travail, qui ont voté, in fine. Hein. Alors, par une facétie du hasard, on a traité 26 000 commentaires, mais c'est une facétie du hasard, ce qui veut dire qu'il y a eu des moutures successives, ça a été un processus itératif extrêmement complet, et puis finalement 93% des 71 pays qui ont voté sur cette norme ont émis un vote favorable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un des votes défavorables était celui des États-Unis. La Chine a fait un très gros lobbying dans les derniers mois pour éviter que cette norme soit adoptée, et quand elle a vu qu'il y avait une majorité écrasante pour l'adopter, ben finalement elle s'est rangée du côté de la victoire et elle a voté pour la norme ISO 26000. Les États-Unis ont voté contre pour des raisons obscures. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils ont, cette année, adopté l'ISO 26000 comme norme américaine. Et c'est intéressant de voir cela. Cette norme a été publiée le 1er novembre 2010. Alors, l'une des conditions d'acceptation du principe de cette norme, c'était qu'elle ne soit pas certifiable. Donc, elle est d'ailleurs rédigée de telle sorte qu'elle n'est pas certifiable. Et dans la slide précédente, ça c'est la définition, pourquoi ne sort-elle pas ? Excusez-moi, mais enfin bon, l'intérêt notamment de cette norme, c'est qu'elle commence par une définition de la responsabilité sociétale des organisations, donc elle ne s'adresse pas seulement aux entreprises, elle s'adresse à tout type d'organisation, et que finalement, pour la faire courte, la responsabilité sociétale d'une organisation, ça s'applique à une organisation, c'est sa contribution au développement durable. Et donc, on fait le lien entre les deux, et ça me permet de conclure mon exposé, voilà la définition de la responsabilité sociétale sur la vision. Vous voyez que la responsabilité sociétale est la contribution des organisations au développement durable. Et depuis sa parution, cette norme a été adoptée comme norme nationale par